tout un monde. Alexandre Abbaye.
L'échec considérable de l'Irak.
Bonjour, qu'est-ce que cela fait de vivre avec 700 euros par mois et des enfants à charge? Comment les Européens du Sud ont-ils vécu la crise? Un ouvrage collectif donne la parole aux citoyens frappés par l'austérité. Regard croisé avec les auteurs de ce livre dans cette émission. Rappelez-vous la photo historique de ce jeune étudiant noir entrant à l'université du Mississippi sous la protection de l'armée et sous les insultes. C'était en 1962. James Meredith entrait dans la légende de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. On vous propose en nouvelle diffusion un entretien réalisé par Philippe Reva avec cette personnalité incandescente. Bienvenue dans Tout un monde. 8 portraits, 8 témoignages pour parler de cette crise qui a frappé durement l'Europe du Sud, en Grèce, au Portugal, en Italie, en Espagne. Des journalistes, correspondants sur place, ont voulu donner la parole à celles et ceux qui ont vécu dans leur quotidien la crise bancaire et les plans d'austérité dévastateurs. Ils en ont fait un livre, Visage de la crise, aux éditions Buchet-Chastel. Deux des auteurs sont avec nous, Marilyn Darcy à Lisbonne et Angélique Kouronis à Athènes. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Votre livre est alors ironiquement sous-titré « Nous, gens du Sud, pauvres et fainéants ». Vous montrez que ces populations finalement ont démenti en quelque sorte ces clichés. Marilyn Darcy, vous êtes à l'origine du projet. Alors comment les gens du Sud, puisque c'est comme ça que vous les appelez, ont réagi face à la crise? À vous lire, c'est largement plus l'énergie que la résignation qui a dominé.
Oui, je pense que c'est ce qui est important de souligner dans le livre, c'est cette volonté d'avancer, cette volonté de sortir de la crise. C'est surtout permettre à des gens qui l'ont vécu et qui la vivent toujours de dire ce qu'est leur quotidien et surtout ce que ça remet en cause quand on est des gens du Sud, de l'Europe du Sud, malmenés par une crise, vous l'avez dit, très très forte, très violente, une austérité très grave. Et puis très peu d'espace pour s'exprimer vraiment.
C'est l'histoire aussi d'un déclassement souvent pour ces gens, d'autant plus douloureux qu'elles ont connu parfois avant l'ascenseur social. Alors je prends le cas de cet architecte, José, né à Bruxelles, revenu s'installer au Portugal parce qu'avant la crise c'était une terre de promesses. Donc voilà, les gens sont tombés de haut.
Oui, les gens sont tombés de haut, des gens qui effectivement pensaient revenir, pouvoir, c'était une des possibilités, un pays qui rentrait dans l'Union européenne, qui bénéficiait des mannes de l'Union européenne, et puis finalement ces gens reviennent et ils sont rattrapés quelques années après par cette crise. C'est la grosse déception, et José c'est quelqu'un qui a voulu raconter cette déception, parce que c'est le fils d'immigrés, tous ces gens qui sont partis, et puis 30 années après, eh bien, ils sont à nouveau obligés de partir, comme on l'a vu d'ailleurs, la forte immigration vers la Suisse.
Comment on vit sur le plan journalistique ces années de crise? Angélique Kouronis, vous êtes en immersion à Athènes, vous côtoyez ces gens, alors comment sont-ils devenus pour vous le visage de la crise? Par exemple, il y a une femme qui vous a marqué, c'est Irini dans le livre, pourquoi? Quelques mots sur cette personne.
Irini m'a marqué parce que quand je l'ai rencontrée pour un tournage d'un film, qu'elle a commencé à parler, à expliquer comment elle, pas vivait, comme il a été dit, mais subissait cette crise et ses retombées, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais vu et écrit et dit était totalement à côté de la plaque. J'avais pas vraiment compris l'ampleur de la violence de cette crise qui était vécue par Irini, subie par Irini comme une déclaration de guerre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une chose, c'est les décisions qui sont prises à Bruxelles par l'Eurogroupe, et puis les conséquences. Nous, ce qu'on a voulu, sous la houlette de Marilyn, c'est décrire ce que les gens vivaient, les conséquences de ces décisions sur leur quotidien. Alors, on peut dire abstraitement que les gens ont perdu la moitié de leur salaire, mais la moitié du salaire, c'est Irini qui m'a fait comprendre qu'elle ne peut plus acheter de viande ou de poisson, qu'elle va manger une fois par semaine chez sa belle-mère et une fois par semaine chez sa mère parce qu'elle n'a plus les moyens à 40 ans de nourrir correctement sa fille, qu'elle a pris la décision de ne pas faire de second enfant alors qu'elle est professeure. Mmh. Elle vivait à l'époque avec 750 euros, donc c'est à peu près 750 francs suisses, et avec ça, elle devait faire face face à tout, aux imprévus, et sa grande terreur était, et toujours, au moment où je vous parle, un imprévu médical, comme le système médical part en sucette en Grèce. Elle dit, qu'est-ce que je vais faire? À qui je vais demander de l'argent? Tous nos amis sont déjà fauchés. Et ça, c'est des choses que l'on voit, mais vraiment quand on rentre dans le quotidien des gens, pas quand on est sur une manifestation ou qu'on va prendre des interviews des politologues, des juristes, des politiciens ou des députés. C'est vivre, et pour ce livre, et aussi pour les films que j'ai fait, Irini, je l'ai côtoyé, mais au quotidien, mais pendant des semaines et des semaines.
Est-ce qu'elles ont l'impression que ce ne sera plus jamais comme avant, c'est-à-dire que comme avant la crise? Est-ce qu'elles ont intégré pour toujours cette fragilité, cette précarité, ou il y a quand même l'espoir de revenir au niveau d'avant?
Alors, les Grecs ont parfaitement intégré que plus rien ne sera comme avant. Ça, au bout de 7 ans de récession, ils l'ont intégré. Alors, il y a un an, jour pour jour pratiquement, ils étaient au bord de... C'était l'euphorie, c'était la joie. Ils pensaient qu'avec leur vote qui donnait au parti radical de gauche, Irini, la première, l'Europe allait changer, allait devenir plus sociale, qu'on allait sortir de la crise et que les mesures allaient être moins inhumaines. Tout le monde pensait cela en Grèce. Un an plus tard, maintenant, c'est le désespoir qui guette. Mmh. Et Irini est quelqu'un de combattant. Donc elle milite toujours, mais elle sait que la vie qu'elle a connue, elle ne l'aura plus. Elle sait que le pays ne sera plus jamais comme avant. Et elle s'inquiète de savoir ce que peut devenir non seulement la Grèce, mais l'Europe. Moi, j'ai l'impression que les personnages de notre livre, j'ai vraiment l'impression que c'est des accidentés de l'Europe. Des gens qui ont cru en l'Europe et ils n'ont pas eu l'Europe dans laquelle ils ont cru.
Une question pour vous, Marilyn Darcy, à Lisbonne. Est-ce qu'il y a cette idée au Portugal qu'on n'est pas la Grèce, qu'on s'en est mieux sorti? Où est-ce qu'il y a le sentiment d'une communauté de destin et d'une solidarité entre tous les peuples du Sud?
Je ne sais pas si les Portugais sont arrivés à cette conclusion, mais ils ont montré beaucoup de solidarité avec les Grecs, avec les Espagnols et d'autres pays, parce qu'ils avaient l'impression que c'est un tout petit pays, le Portugal, on en parle très peu. Ce sont des gens plutôt pacifiques, on n'a pas des manifestations avec des débordements comme on a vu dans d'autres pays. Donc comment exister? Bon, on existe grâce au fait qu'il y a des manifestations plus importantes ou des décisions plus importantes. Alors c'est vrai que c'est silencieux, ça ne veut pas dire que c'est sans intérêt, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, et c'est d'ailleurs l'objectif du livre, à montrer que ça existe, et que ça existe dans un quotidien très fort et très compliqué. Alors les gens veulent croire que les choses vont changer, j'ai dit exactement comme Angélique en ce qui concerne la Grèce, le Portugal veut croire que ça va changer, veut que ça change, mais ne voit vraiment rien de spécial venir de l'Europe, et je crois que c'est ça qui est un petit peu inquiétant, parce que même s'il y a une légère amélioration, les choses restent très compliquées et on voit rien vraiment de très fort venir, un signe qui ferait que l'Europe du Nord serait plus solidaire de l'Europe du Sud, que l'Europe du Sud serait apaisée. Voilà, ce sont des dossiers extrêmement compliqués.
Et vous qui devez rendre compte de cette réalité vécue dans les pays d'Europe du Sud, est-ce que vous avez l'impression que les médias, les rédactions pour lesquelles vous travaillez, et le reste de l'Europe en général, a pris la mesure de ce que vivaient les gens? Est-ce que vous avez parfois l'impression qu'il y avait un décalage entre les clichés? On parlait des clichés, le sous-titre du livre, Pauvre et fainéant, et puis la réalité.
Au plus fort de la crise, de l'austérité, au moment où la Troïka était là, les années les plus difficiles, 2012, 2013, je pense que non, il y a eu une prise de conscience grâce à notre travail. Enfin, c'est notre travail, donc c'est un peu logique, mais je veux dire, on s'est intéressé. Le Portugal a été aidé, soutenu financièrement à l'échelle de ce tout petit pays, c'est énorme, 78 milliards d'euros. Il va pas tellement mieux, la situation est toujours très compliquée. Donc ça a été relaté, il y a eu des grandes manifestations, on a pu le dire, en parler, mais c'est toujours très rapide, et il faut sans arrêt expliquer, ce sont des situations compliquées, très différentes d'un pays à l'autre, il faut toujours parler de la situation, faire connaître les gens, les choses, et voilà, c'est notre profession.
Valérie Demont nous a rejoint dans ce studio, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante à Madrid, de passage à Lausanne, alors on voulait vous faire réagir à ce que vos collègues ont raconté. Est-ce que ça fait écho à ce que vous avez vécu en Espagne? C'est vrai que c'était le pays aussi, avec le mouvement des indignés, hein, emblématique en quelque sorte du refus d'austérité.
Moi, il y a un mot qui m'a fait écho, évidemment, c'est déclassement. Parce que je crois que c'est un point commun avec le Portugal, avec la Grèce et avec l'Espagne. Maintenant, on parle d'une reprise économique en Espagne, par exemple, avec un bouton de croissance, reprise des emplois. C'est vrai. Le problème, c'est que la situation s'améliore sur le plan macroéconomique. La question, est-ce qu'elle se traduit sur le plan microéconomique ? Alors oui, effectivement, la consommation... On sent un frémissement. Le problème, c'est que les gens ne le vivent pas au quotidien. Les salaires ont baissé en moyenne de 20%. Un petit exemple, il y a encore quelques années avant la crise et même au début de la crise, on parlait beaucoup des milleuristes. Milleuristes, ce sont les gens qui gagnent 1000 euros. Et maintenant, quand vous interrogez les gens, beaucoup vous disent « Ah, milleuriste, mais c'était du luxe !» C'était du luxe parce que maintenant, ça peut être 600, 700 euros. Donc comment vous construisez une vie avec 600 euros ? Et c'est là tout le problème. C'est-à-dire que oui, l'emploi repart, mais ces 90% des emplois créés sont temporaires. Sur ces 90%, vous avez 1 sur 5 qui dure moins d'une semaine, donc vous avez un bas salaire. Comment vous construisez une vie ? Donc c'est pour ça aussi que beaucoup de jeunes qui sont très bien formés partent à l'étranger. Et beaucoup vous disent, quand vous les interrogez, alors ils sont en général, ils peuvent être très loin en Amérique latine, aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse aussi. Et beaucoup vous disent, le problème c'est le retour. C'est-à-dire qu'on ne voit pas de projet à long terme. Et ça c'est la grande question. Quel est le projet à long terme en Espagne ? On peut l'appliquer à toute l'Europe. Est-ce qu'il y a un réel investissement, un réel projet industriel, justement pour donner du travail digne ?
Effectivement, c'est un des grands enjeux pour l'Europe pour 2016. Merci Valérie Demont. Merci aussi à Marilyn Darcy et Angélique Kourounis. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Visage de la crise, nous, gens du Sud, pauvres et fainéants, que vous avez co-signé avec plusieurs journalistes chez Buchet-Chastel. Bonne journée à toutes.
Merci.
Merci.
James H. Meredith is formally enrolled at the University of Mississippi, ending one chapter in the federal government's efforts
to segregate. J.H. Meredith will register for the second semester.
Americans are free and sure to disagree with the law, but not to disobey it.
James Meredith chose to knock down the walls of segregation. He's a living monument to that movement.
Nous sommes en automne 1962. James Meredith était le premier noir américain à entrer à l'université du Mississippi, protégé alors par les forces armées envoyées par le président Kennedy qu'on vient d'entendre. James Meredith, qui a aujourd'hui 82 ans, vit toujours dans l'état du Mississippi. Notre correspondant à Washington, Philippe Reva, l'a rencontré et le 22 octobre dernier, il évoquait avec Céline Tsau cette grande figure de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. James Meredith, c'est un peu une légende vivante.
Bien vivante, vous allez l'entendre. James Meredith, c'est le courage incarné, mais il déteste qu'on le lui rappelle.
I find myself insulted every time that word's mentioned.
Je me sens insulté chaque fois qu'on utilise ce terme. Ne comprenez-vous pas que pour qu'il y ait du courage, il faut qu'il y ait de la peur ? Ne comprenez-vous pas à quel point c'est insultant pour moi ? Suggérer que James Meredith devrait avoir peur de quelques hommes blancs ignorants ? Si vous observez les images de mon entrée dans l'université, dans l'autre camp, tout le monde tremblait comme une feuille. Vous savez pourquoi il tremblait ? Parce que c'était mon plan. Vous comprenez ça ?
Dès les premières secondes, on est fixé avec James Meredith. C'est une personnalité incandescente, farouchement indépendant des accents, parfois de prophète de l'Ancien Testament. James Meredith est entré dans la légende ce jour de 62, protégé par les forces fédérales envoyées par John et Robert Kennedy contre le gouverneur de l'époque, contre les étudiants blancs. Les émeutes ont fait 2 morts à Oxford, Mississippi. Il faut observer cette photo de James Meredith qui avance dans la foule hostile du campus de l'université Ole Miss. Ce regard incroyablement fier, défiant, eh bien, il l'a toujours. Quand on le rencontre dans le parc d'une bibliothèque de quartier de Jackson, Mississippi, pas rancunier, il porte une casquette du club de football américain de l'université. Il y a sa statue désormais dans le campus, mais il rejette les hommages. C'est un homme seul, James Meredith. Le mouvement pour les droits civiques, pour lui, c'est une supercherie.
Les droits civiques sont une insulte à la citoyenneté parce qu'ils ont été établis dans le but spécifique de faire des Noirs des citoyens de seconde classe. Il y a des milliers, si ce n'est des millions de droits qui sont attachés à la citoyenneté. Le concept de droit civique était simplement d'aider les Noirs à obtenir 3 ou 4 de ces milliers de droits civiques, comme le droit de vote ou le droit d'utiliser les transports publics. Le droit
de ride on a train ou bus ou whatever.
Il y avait 4 droits principaux. Nous allons vous aider à obtenir ces 4 droits si vous reconnaissez que vous, les Noirs, êtes inférieurs et que vous n'avez pas les autres droits qui vont avec la citoyenneté et que seuls les Blancs possèdent. Tout le monde dans les médias a fait de son mieux pour m'effacer du mouvement des droits civiques. Ils croyaient me blesser, mais ils me faisaient la plus grande faveur imaginable. Mon but principal était de détruire la suprématie blanche et toutes ses manifestations.
Et cette lutte, James Meredith l'a payée très cher. En 66 encore, il se lance dans une marche contre la peur depuis le Tennessee. Il est froidement abattu. Un homme blanc l'atteint de plusieurs balles. Il s'en sort vivant. Martin Luther King, des milliers de militants prennent le relais de la marche dans les semaines qui suivent.
Alors Philippe, beaucoup de progrès ont été accomplis. Est-ce que James Meredith en est conscient et tous ces progrès auxquels il a contribué?
Disons, j'ai osé lui demander s'il admettait un certain succès.
One what? One my ass.
Avec son franc-parler, James Meredith déclare qu'il n'a rien gagné. D'abord, il était citoyen du Mississippi. Ses droits étaient un dû point. Meredith est d'une fierté implacable. Il refuse la position victimaire de la lutte pour l'émancipation. Refuse aussi quand on lui fait remarquer que de gros progrès ont été accomplis tout de même depuis les années 60.
Qu'est-ce que vous croyez qu'il est en train de se passer aux États-Unis aujourd'hui? Absolument pas. Les Blancs nous bottent toujours les fesses. C'était le règne de la domination blanche avant cela, et ça l'est resté tous les jours depuis lors. La ségrégation est juste un autre nom pour l'esclavage. Ce que les gens pensent s'être produit durant l'esclavage, s'est produit après l'esclavage. Donc il est fondamental de renverser la suprématie blanche dans toutes ces manifestations.
The system of white supremacy in all of its manifestations.
Ma mission désormais est de convaincre les Blancs que ce serait une bonne chose et de les faire joindre leurs forces avec moi. Combien d'autres Noirs avez-vous entendu utiliser les mots suprématie blanche? Je n'en connais aucun, à part James Meredith. Pourquoi croyez-vous qu'ils n'utilisent pas ces mots?
Other than James Meredith. Why you think they don't?
Parce qu'il n'ose pas, dit James Meredith. Le discours est radical, mais il fait écho à l'embrasement de la question raciale aux États-Unis. Les violences policières, le mouvement Black Lives Matter, sous cette présidence Obama aussi qui devait être post-raciale, et les tensions culminent au contraire. Obama a suscité la haine, parfois irrationnelle, des racistes d'un côté, de l'autre les Noirs qui le vivent comme une nouvelle insulte.
Et Obama, justement, quel regard James Meredith porte-t-il sur ce président?
Pour Meredith, ce premier président noir est un président prétexte.
Le président Obama est le 44e président. Il a été élu par les mêmes personnes qui ont élu les 43 premiers présidents et pour exactement les mêmes raisons. Le problème racial entre blancs et noirs. Je vous garantis que je ne rencontrerai jamais Barack Obama.
On notera que Kennedy ne trouve pas non plus grâce à ses yeux. Kennedy qui a pourtant envoyé l'armée pour le protéger contre le gouverneur à l'époque au Mississippi. Meredith ne lui accorde aucun crédit. Au contraire, il affirme qu'il en avait peur.
I was scared to death of the Kennedys. The Kennedys wanted one thing.